Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous, bon réveil et surtout bienvenue à vous qui nous retrouvez en ce vendredi matin sur BPM. Vous le savez, comme chaque semaine, nous allons à la rencontre des élus du territoire du Mantois. Ce matin, pour clôturer cette semaine avant les vacances scolaires, nous nous tournons vers Gargenville et pour cela, nous sommes en compagnie ce matin de Yann Perron, maire de la commune depuis 2020. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour, bonjour aux auditeurs de BPM.
Ce matin, nous allons aborder les problématiques actuelles de la commune, à commencer par le budget de la ville qui sera voté prochainement au conseil municipal. Nous parlerons également des différents projets en cours à Gargenville et pour finir, sujet plus léger, les prochains événements qui animeront la ville. Je vous propose de commencer bien par le budget, véritable temps fort d'une municipalité et surtout qui donne, on va dire, la tendance pour l'année à venir. Quelle est justement la tendance de ce budget pour Gargenville ?
Bah écoutez, effectivement, oui, c'est un moment important de l'année. Ça sera voté dès lundi prochain, dans 3 jours.
Et au cœur de l'actualité.
Et exactement. Et donc, on est plutôt fiers du travail accompli ces 4 dernières années. On maintient un budget particulièrement à l'équilibre, orienté vers l'avenir, ce qui nous permet évidemment de travailler sur des investissements importants qui permettront évidemment de préparer cette ville aux problématiques et aux enjeux du futur, notamment avec un investissement important sur un plan de développement des économies d'énergie, avec la signature, j'espère, très bientôt, après les différentes études qui sont en cours, avec un plan de performance énergétique. Voilà, un investissement important qui sera réparti sur l'ensemble de nos structures, avec des objectifs cibles, contractualisés avec un prestataire, de diminution de 20 ou 30% des économies d'énergie sur les 10 prochaines années.
On sait à quel point l'année dernière a été rythmée et surtout... on va dire inquiète, face à cette hausse du coût de l'énergie. Comment ça s'est passé pour vous cette année, la gestion de ce coût de l'énergie ?
Alors écoutez, c'est vrai que c'était particulièrement compliqué. On était vraiment dans le brouillard. Hein. C'est un moment où les coûts d'énergie montaient sans qu'on ait vraiment de vision, même à très court terme. Et nous, on a pris des mesures assez radicales, notamment sur les structures sportives ou les structures qui étaient les moins utilisées possibles. On a carrément coupé le chauffage. Alors c'était politiquement c'était un engagement politique un peu compliqué à assumer, mais néanmoins qui porte ses fruits aujourd'hui. Hein. On le voit bien, j'ai réussi, grâce à cette mesure, dégager 1,2 million d'euros d'autofinancement sur cette année, qui va nous permettre évidemment de diminuer la part du crédit dans nos investissements et améliorer notre capacité d'autofinancement.
Vous avez aussi fait un autre choix, celui de vendre un bâtiment communal.
Oui, alors c'est une des mesures, une des dernières mesures importantes de ce mandat, liée notamment à l'héritage de cette ville, qui a un patrimoine immobilier considérable. C'est une ancienne ville industrielle qui à l'époque, évidemment, bénéficiait de la taxe professionnelle et c'était des revenus relativement conséquents qui permettaient de vivre très confortablement. Et c'est plus le cas aujourd'hui, donc il faut rationaliser notre parc bâtimentaire. Et à travers ça, également continuer à maintenir le niveau de service. Et cet objectif de maintien du niveau de service est lié avec la fusion de différentes structures dans une seule structure, ce qui nous permet de dégager un peu de marge de manœuvre et de libérer des bâtiments qu'on va vendre.
Vous l'avez dit, c'est un budget qu'on pourrait qualifier de rigoureux. Est-ce que c'est difficile de le tenir ? Cette rigueur.
Oui, alors ça peut l'être un peu moins cette année, puisqu'évidemment on a une visibilité sur les coûts d'énergie qui est un peu plus à long terme. Donc là, on sait aujourd'hui à peu près où on va. Les gros projets structurants de la ville sont dorénavant financés. On n'a pas de soucis sur nos travaux structurants. D'ici la fin du mandat, il y aura évidemment plus de gros investissements. Et la rigueur engagée depuis ces 4 dernières années nous permet d'être à peu près à l'équilibre jusqu'à la fin du mandat, et notamment l'engagement que j'ai pris cette année de baisser une part, certes minime, de la taxe foncière, de la part communale de la taxe foncière, mais néanmoins c'est un effort consenti par les concitoyens de cette ville au titre de la baisse du chauffage, de la rationalisation et de certains changements d'habitude dans l'usage de nos structures qui permettent de dégager un petit peu d'excédent et de diminuer les impôts.
On sait que ce n'est pas toujours évident parce que ce ne sont pas toujours des mesures très populaires. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez peur de ça ?
Écoutez, si on n'a pas le courage politique, on ne fait pas de politique. À mon sens, il faut aussi faire beaucoup de communication, de pédagogie, d'expliquer les décisions qu'on prend. On essaye de le faire au mieux pour développer nos arguments autour de ça. Et c'est vrai que le changement d'habitude, et on le voit, cette grosse décision que j'ai prise également de changer le mode de récolte des déchets en diminuant les services, nous permet de dégager aussi des marges de manœuvre financières importantes. Mais je ne l'ai pas seulement fait au titre financier, je l'ai fait au titre écologique, puisqu'on ne peut pas continuer, évidemment, à récolter au porte-à-porte avec des camions et trois personnes n'importe quel type de déchets qu'on a à traiter dans nos maisons.
Oui, parce qu'il y a un autre point, bien sûr, qui impacte le budget, c'est bien sûr ce changement du taux de la TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, voulue par la GPSCO. Mmh. Quel choix vous avez fait à ce niveau-là?
Alors moi, j'ai fait le choix socle, celui qui nous impose de changer nos habitudes. Donc évidemment, il y aura des bacs d'abord volontaires qui vont être installés dans la ville, notamment pour le verre, VE2RE, les bouteilles de verre.
Et il n'y aura plus de collecte en porte-à-porte.
Voilà, c'est ça. Et on supprime évidemment l'enlèvement des encombrants en porte-à-porte également, puisque nous avons une déchetterie à Gargenville. Et cette déchetterie, elle est là pour être utilisée. On ne peut pas additionner les services sans avoir additionné les coûts. Les encombrants existaient avant la création de la déchetterie. On a construit la déchetterie, on a conservé les encombrants. Donc il faut changer ces habitudes-là. Et surtout que l'impact écologique des encombrants est considérable. Et puis... je pense qu'il faut changer un petit peu de paradigme autour de ces sujets-là.
Du coup, vous le disiez, ça va baisser le montant de cette fameuse TEOM et vous avez fait le choix de le reporter sur la taxe foncière.
Oui, on en a décidé, j'ai pas décidé seul. Avec l'ensemble de mon conseil municipal, nous avons décidé de redistribuer l'effort consenti sur ce changement particulier en diminuant à peu près d'un point et demi la part communale sur la taxe foncière.
Est-ce que les gens vont pouvoir s'en rendre compte?
Alors évidemment, la base des valeurs locatives qui est imposée par l'État va augmenter. On va dire que ça va évidemment atténuer l'augmentation d'impôts qu'aurait été celle si on n'avait pas diminué la part communale.
En revenant d'ailleurs sur l'État, la dotation de l'État, est-ce qu'elle est conséquente dans le budget de Gargenville?
Alors si vous voyez des maires tous les semaines, je pense qu'on a tous le même discours, hein. La dotation globale de fonctionnement est quelque chose qui a énormément diminué ces dix dernières années. Hein. Le soutien de l'État aux collectivités n'est plus celui qu'il était.
Parce qu'avant, l'État reversait une belle part.
Oui, pour ma part, c'était plus d'1 million, 1,2 million d'euros. Et là, on est bien en dessous les 100 000 euros aujourd'hui. Donc, on a quasiment divisé par 10 la dotation globale de fonctionnement. Ce qui est un vrai problème, hein, parce qu'on n'a pas de visibilité à financer nos services, nos écoles notamment. Quand on est une ville comme la mienne, une ville moyenne, on a également beaucoup de structures et besoin de ressources pour assurer les services. Et c'est problématique d'être dans le flou tous les ans, de savoir de combien va baisser, parce qu'on a la certitude qu'elle va baisser, mais on ne sait jamais de combien.
Donc. Qu'est-ce qui justifie un tel écart? Parce que vous l'avez dit, on est passé de 1,2 million à moins de 100 000 euros en 10 ans. Comment ça se justifie?
Alors, en ce qui me concerne, moi, pour cette année, je sais que les critères de calcul de la dotation globale de fonctionnement sont quand même un petit peu problématiques pour les maires qui sont comme moi, comme on l'a dit précédemment, de bons gestionnaires. Comme on arrive à dégager des parts d'autofinancement et qu'on n'augmente pas les impôts, la dotation globale de fonctionnement diminue. Ce qui serait l'inverse, hein, si j'avais augmenté les impôts et fait des crédits outre mesure. Eh bien, la dotation globale de fonctionnement aurait plutôt été stable, voire augmentée.
Donc finalement, vous êtes pénalisé.
C'est la double peine.
Vous êtes pénalisé d'avoir bien géré votre année.
C'est ça.
Et là-dessus, il n'y aura pas d'augmentation possible au fur et à mesure.
L'effet inverse me paraît peu envisageable.
Un autre sujet important pour la commune, ce sont bien sûr les projets à venir, et il n'en manque pas d'ailleurs à Gargenville, comme avec l'aboutissement du projet de la halle associative.
Oui, c'était un projet de campagne électorale d'ailleurs, même s'il a mis un petit peu de temps à sortir, hein, parce que ça fait 4 ans qu'on est élu maintenant, et les différentes problématiques après le Covid, l'augmentation de l'énergie, la guerre en Ukraine et l'inflation des coûts des matériaux nous sont quand même beaucoup pénalisés dans le déploiement de ce programme. Mais aujourd'hui, ça y est, l'appel d'offres travaux a été attribué la semaine dernière, et d'ici mai, les travaux vont commencer. Et je suis vraiment satisfait de ce programme parce qu'il va nous permettre encore une fois également de rationaliser nos services. en mutualisant 5 structures dans une seule, dans un seul bâtiment moderne, et avec évidemment tous les équipements nécessaires au maintien du service qu'on avait sur, sur l'ensemble de la ville.
Pour expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas, à quoi va ressembler cette halle associative et pourquoi vous l'avez voulu ?
On avait une structure municipale qui était une halle de marché qui n'a jamais fonctionné, qui est dans les axes de circulation, dans les axes principaux de circulation, qui est plutôt dans une dans un secteur de centralité et qui ne servait pas à grand chose. Donc en fait, on a beaucoup de mitages de bâtiments avec des structures qui sont réparties un peu partout sur le territoire dans des structures qui n'étaient absolument pas aujourd'hui au regard des besoins, qui étaient plutôt inadaptées et souvent même dégradées. Donc on a évidemment décidé de tout rassembler dans un seul bâtiment, voire même d'améliorer en fait la qualité de service, puisque on aura des espaces plus grands, plus lumineux, neufs, avec des systèmes de chauffage modernes, sera isolé, et on va installer des panneaux solaires pour alimenter l'ensemble de la structure sur le toit.
On en revient toujours à l'énergie.
L'énergie, voilà. Et surtout prévoir l'avenir.
Qu'est-ce que vous allez faire, ou que vont devenir en tout cas, les 5 bâtiments, puisque vous avez dit que vous avez rassemblé 5 bâtiments finalement en un.
Ah, oui.
Que vont-ils devenir ?
Alors, certains vont être vendus, d'autres vont être détruits, et d'autres réattribués. Voilà, donc on va un petit peu jouer au jeu de chaise musicale entre les différentes structures pour mettre à disposition des associations. On va déplacer le billard dans la salle de danse, on va supprimer la salle de billard pour agrandir la cantine, et pour le reste, ce sera vendu.
Parce que les écoles vont pouvoir bénéficier aussi de plus d'espace ?
Oui, 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 oui. Ça va être un équipement qui va être vraiment au bénéfice de l'ensemble des habitants de cette ville, que ce soit associatif, scolaire, et même au niveau des associations. Ouais, c'est vrai, vraiment.
Quelles associations vont pouvoir profiter de cette halle ?
Alors, on a une structure qui s'appelle l'ADMR qui va en bénéficier. On a le Club Omnisport, qui est une grosse structure associative qui rassemble beaucoup de clubs sportifs, qui va en plus de bénéficier de la structure qui va être en partie à la gestion du bâtiment.
Au niveau de cette halle, vous l'avez dit, ça a été long, ça a été compliqué, en tout cas bien plus que ce que vous aviez imaginé au départ. La hausse des coûts, comment s'est passé le financement ? Et est-ce que c'était le projet de départ ? Est-ce qu'il a dû être changé en cours de route ?
Il a assez peu évolué au long du temps. On a dû revoir quelques projets et diminuer les coûts, hein, de construction. Heureusement, on est quand même néanmoins soutenu par le département et la région sur ce type de programme. On a un soutien assez conséquent financier, mais le reste à charge pour la ville est encore important. Donc oui, on a fait varier pas mal le programme tout au long de ces problématiques qui sont évidemment internationales, qui nous ont pas mal impactés. Mais la principale raison de ce temps long de déploiement, c'est les démarches administratives et la rédaction de tous ces documents qu'on a, chacun de nous, les maires, pour chaque programme. Les contraintes administratives sont extrêmement lourdes et très longues.
Un autre projet qui vous tient à cœur, ce sont les arbres nourriciers que vous voulez implanter sur la commune.
Alors on a, avec mes services Espace Vert, développé un programme aidé par Leaders, des fonds européens Leaders. Et donc on a des terrains agricoles, d'ex-terrains agricoles qui sont aujourd'hui plus cultivés. Et on a eu l'idée, avec mes élus, de planter une forêt nourricière. Donc c'est 1000 arbres. Du noisetier, du noyer, des châtaigniers, et des cognassiers, des arbres fruitiers divers, et sur plus d'un hectare, donc un peu plus d'un hectare, oui, quasiment deux même, quasiment 2 hectares qui vont être plantés avec un cheminement promenade qui permettra de faire des cueillettes et des ramassages de fruits au moment des récoltes, donc notamment avec nos services périscolaires qui pourront, avec les enfants, au fur et à mesure des saisons et des récoltes, emmener les enfants récupérer les fruits.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce projet ? C'est assez peu courant, finalement.
Encore une fois, celui qui plante un arbre ne bénéficie pas toujours des fruits. Donc, si on ne plante jamais d'arbre, on n'aura jamais les fruits. Donc, on sait que voilà, ça met un peu de temps avant de produire. Je pense que nos enfants ont aussi besoin d'avoir une réalité, un aspect tactile, d'aller récolter les fruits directement dans l'herbe, les noisettes, les noix, les châtaignes, c'est des éléments, même si on est dans une zone un peu périurbaine et même si on a du rural très près de Gargenville, encore beaucoup d'enfants, je pense, qui sont un peu exclus de ce genre de pratique. Et l'intégrer dans le parcours d'activité de nos centres de loisirs me paraissait important. Et puis, quand bien même, ces arbres resteront et bénéficieront, quoi qu'il arrive, à quelqu'un un jour.
On en est où de ce projet ? À quelle phase ?
On est en phase d'instruction auprès des services de Leader et du PNR, du Parc National Régional du Vexin Français.
Et quand est-ce qu'il pourrait se mettre en place ?
Alors l'idée, ce serait de planter, parce qu'on plante en hiver, donc l'idée serait de planter entre novembre et mars de l'année prochaine, de cet hiver.
Donc ça pourrait se mettre en place finalement assez rapidement.
Assez rapidement, oui, j'espère.
Et dans les prochaines semaines, d'ailleurs, justement en parlant de rapidement, eh bien, plusieurs événements arrivent à Gargenville, comme le retour du Cool Day. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, nous le présenter ?
Alors le Cool Day, c'est depuis plus de 10 ans présent sur Gargenville. Ça a grossi, hein, c'est vraiment un événement qui grandit d'année en année. Cette année, c'est particulièrement soutenu par la ville, parce qu'on sait que l'association avait des difficultés, à la fois financières, mais aussi en termes de main-d'œuvre, hein, pour trouver des bénévoles. Donc on arrive en soutien pour organiser une vraie soirée, concert de rock, avec une programmation professionnelle ce coup-ci, et totalement soutenue par la ville.
Qu'est-ce qui attire autant dans cet événement ? Parce qu'on sait que ça passe largement les frontières de Gargenville.
Bon, je pense que c'est la qualité de l'organisation déjà, qui a fait ses preuves, hein, depuis tant d'années. Et puis c'est un événement ouvert à tous, gratuit, où chacun peut venir avec son véhicule de collection. Il y a un fonds de véhicule, il y a des associations de collectionneurs qui viennent. N'importe quel propriétaire de Harley-Davidson peut exposer. Il y a des motos, des voitures, il y a un peu de tout. C'est assez bon enfant. Il y a aussi des stands de créateurs, d'artistes. Et je pense que ce mélange convient particulièrement à une journée de printemps comme ça, où tout le monde vient en même temps écouter de la musique et manger des frites.
Ça fait briller les yeux des petits et des grands en même
également,
temps.
Également, voilà.
Ce sera quand exactement et ce sera où ?
Alors c'est dans le parc d'Annecourt et c'est le dernier week-end de mai.
Un autre événement qui arrive là dans quelques jours, ça va être les Olympiades. Cette année, en 2024, on peut difficilement passer à côté. Vous l'aviez déjà fait l'année dernière, vous le refaites cette année.
C'est ça, on le refait cette année, d'autant plus que nous sommes...
Labellisés,
voilà, terre de jeu. Et donc, avec les services de la communauté urbaine, un atelier de développement et de découverte des sports olympiques. Sera, alors je ne sais plus quel week-end on l'a noté, mais quelle semaine ? C'est le 18, je crois.
Ce sera le 18, le 18 avril.
C'est ça, voilà. Donc le 18 à
Gargenville. Pendant les vacances.
Voilà, notamment c'est au niveau de l'Halle du Marché, à côté de la salle des fêtes.
Et ça permet donc aussi de découvrir de nouveaux sports. Est-ce que les associations de la ville seront présentes ?
Certaines associations seront présentes. Alors nous, on n'a pas d'association d'athlétisme, mais néanmoins, ça permettra à nos habitants de découvrir les différentes disciplines de l'athlétisme. Qui sont de toute façon accessibles sur notre territoire.
La médiathèque aussi,
oui.
Qui en ce moment propose un gros programme autour du Japon.
C'est ça, avec une semaine manga qui est mise en place par le service de la médiathèque. Donc on a une multitude d'animations, d'événements autour des mangas. Et donc j'invite chacun à venir découvrir ce secteur de l'édition qui est particulièrement apprécié par nos adolescents.
Donc finalement, de la culture, du sport, des frites, vous nous l'avez dit, on en trouve pour tous les goûts à Gargenville.
C'est ça, et puis un peu plus tard dans la saison, notre célèbre 14 juillet sur les bords de Seine, avec le parc du château de Rangiport, pardon, qui est ouvert avec une guinguette, des food trucks et évidemment un concert de musique également.
Et nous terminerons l'émission sur cela. Merci monsieur le maire d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Je remercie également la technique de BPM qui nous permet de faire cette émission en direct chaque semaine. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com ainsi bien sûr que les précédentes. On se retrouve pour notre prochain rendez-vous du Mantois après les vacances scolaires. À très vite et bonne journée à l'écoute de BPM.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.